La 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 la.
La la.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Écoute, essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon. Ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la.
L'urgence, c'est de participer à la prise de conscience pour changer la société. Alors d'un côté, il faut convaincre et de l'autre, il faut faire des propositions concrètes avec Réseau Salariat. Donc, on en a des propositions. Donc, on revendique un salaire à vie, un salaire à la qualification. On veut se réapproprier les moyens de production, posséder notre outil de travail. On veut décider de ce que l'on vit.
Ce que propose le Réseau Salariat et Bernard Friot, qui est le membre de Réseau Salariat le plus connu, à savoir une société totalement débarrassée du capitalisme. Une société où, en gros, les gens travailleraient soit dans des services publics, soit dans des coopératives, soit comme travailleurs indépendants. Mais où ils travailleraient pour faire leur activité qui correspond à leur travail, quoi. Où ils ne seraient pas en train de travailler pour rembourser une dette. Où les personnes, en fait, seraient confirmées comme des travailleurs, c'est-à-dire que dès 18 ans, ils ont un salaire qui leur est versé. Ou ce qu'ils font quand ils dépensent leur argent, cet argent est reversé à des caisses qui reviennent à la collectivité, c'est-à-dire des caisses où on va cotiser pour les salaires, ou des caisses où on va cotiser pour pouvoir investir à la place du crédit bancaire. En fait, cette proposition-là me semble hyper pertinente dans la situation actuelle, et notamment écologiquement. Du point de vue écologique, il faut que l'on puisse gérer le travail. Enfin, on ne vivra pas dans une société qui ne met pas à feu et à sang la planète sans sortir du capitalisme. Mais sauf qu'on a déjà des pistes pour sortir du capitalisme. Et ces pistes-là sont très prometteuses du point de vue écologique. En fait, c'est très simple finalement ce que raconte le Réseau Salariat et Bernard Friot. C'est de démocratiser l'économie, c'est-à-dire que le lieu de travail, ce soit nous, c'est nous qui décidons dans le lieu de travail. Au niveau de la consommation, c'est nous aussi qui pouvons décider de qu'est-ce qui est produit, comment c'est produit. Au niveau des salaires, du montant des salaires, au niveau de dans quoi on investit, au niveau de quelle entreprise se crée et quelle entreprise se crée pas, que tout cela soit démocratisé, que ce soit nous, les salariés et les travailleurs indépendants. Il me semble que ça, c'est vraiment une piste à mettre dans l'air du temps, d'autant plus qu'on voit bien que dans le monde militant, on se dit qu'on est en gros en train de refaire un Conseil national de la résistance. On est en train de refaire, de reproposer des pistes pour les décennies à venir. Donc il me semble qu'à ce moment-là, il faut regarder ce que proposent le Réseau Salariat et Bernard Friot.
Je suis assez un fervent défenseur de la proposition de Réseau Salariat de la sécurité sociale de l'alimentation qui serait d'allouer 100-150 euros par mois par personne et qui serait financé comme la sécurité sociale de la santé sur à partir de cotisations et qui permettrait de conventionner, enfin de pouvoir dépenser ces 100-150 euros dans des magasins qui seraient conventionnés et donc qui pourraient sur lesquels on pourrait déterminer des critères, et donc ça pousserait une population qui de toute manière va considérer le bio ou le local comme des lubies de bobos qui n'ont pas cette culture là bah de se dire, bon, bah voilà, en fait, je peux dépenser ces 150 euros là-dedans, je vais le faire, du coup, peut-être flécher, en tout cas, des comportements, mais par les institutions, parce que toujours faire reporter le poids sur la morale et sur la moralisation des individus, c'est fatigant, parce que c'est pas comme ça que ça marche, on est pris dans un système, on est pris dans des institutions, et c'est les institutions qui guident nos choix et nos comportements. En tout cas, c'est ce dont je suis convaincu.
Il faut qu'on se réapproprie l'idée d'augmenter les cotisations sociales. Les cotisations sont ce qui finance l'hôpital public, évidemment, c'est aussi ce qui finance les retraites qui étaient attaquées juste il y a quelques mois. Il faut que nous, quoi, le peuple, les salariés, il faut qu'on se réapproprie ce truc de la cotisation. La cotisation, c'est un outil formidable pour payer du travail libre d'une certaine manière, du travail où on est moins soumis à l'employeur, que ce travail soit quand on est retraité, que ce travail soit quand on est indemnisé, quand on est au chômage, là on a aussi du temps qui se réouvre, évidemment que ce travail soit le travail, enfin le fait d'être payé pour se soigner. Quand on est malade, on reçoit de l'argent avec la cotisation maladie, mais en fait c'est de l'argent, finalement le travail du malade c'est de se soigner, et c'est quand même un travail super intéressant. Et évidemment, ces cotisations financent tous les salaires de la fonction publique hospitalière. La cotisation sociale, c'est un trésor. Et c'est un trésor notamment parce qu'elle ne passe pas par le capital, elle ne passe pas par les banques, elle ne passe pas par les capitalistes. J'entendais tout à l'heure à la radio un spot de la Fondation de France, un spot horrible sur le thème de la charité, où on entend des applaudissements comme si une foule applaudissait en ce moment les soignants. Ces pubs-là sont horribles parce qu'elles viennent chercher l'argent des ultra-riches, des très très riches, qui eux vont venir à grands coups de communication dire qu'ils sauvent l'hôpital public en venant avec de la charité déverser des millions sur l'hôpital. Mais nous, leurs millions, on ne veut pas qu'ils viennent nous les déverser, on veut les leur prendre, ça n'a rien à voir. Donc, on prend leurs millions, mais surtout on augmente les cotisations sociales. Comme ça, on leur bouffe petit à petit l'argent qui constituait habituellement leur profit. Et cet argent, on l'alimente dans les caisses de sécurité sociale qui viennent ensuite financer l'hôpital public. Vous verrez qu'en face, ils auront tout un tas d'idées pour attaquer le salaire. Je vous prédis d'avance qu'ils feront une sorte de... ce sera quoi? Comment ils vont appeler ça? Peut-être une... Allez, même ils utiliseront le mot de cotisation, je suis sûr. Par exemple, une cotisation de solidarité pendant la crise du coronavirus. Et cette cotisation, ce sera une baisse du salaire net des fonctionnaires, par exemple. Ils vont penser à des trucs comme ça. Ils vont nous attaquer notre salaire pour financer en ce moment la crise du coronavirus. Mais nous, ce qu'on dit, c'est vous n'attaquez pas les salaires tant que vous n'avez pas attaqué tous les profits. Pas un seul euro de salaire ne doit être attaqué tant que le dernier actionnaire n'a pas été asséché. Il faut continuer à militer en ce moment pour que les salaires ne soient pas attaqués. Il faut donc pour cela qu'on se convainque du fait que nous sommes au travail. Au niveau collectif, le travail que nous sommes en train de faire pourrait s'appeler surmonter la crise du coronavirus. Et vu que le travail est une affaire collective, on peut très bien dire qu'en ce moment, tous les salariés, tous les travailleurs indépendants du pays, comme d'habitude, sont en train de travailler, et donc que 100% des salaires doivent être versés comme habituellement. Aucune attaque des salaires. Individuellement, donc ça c'est au niveau macro-social, voilà ce qu'on est en train de faire, surmonter la crise du coronavirus. Au niveau individuel, on peut se dire, mais comment ça, t'es en train de travailler? Mais non, toi d'habitude, tu travailles dans une usine qui en ce moment ne tourne plus. Eh bien, là tu es à la maison, mais non, tu ne travailles pas, donc non, tu ne mérites pas ton salaire. Il faut absolument que l'on conteste ça, et ça se conteste de manière extrêmement simple. Ce n'est pas parce que je ne suis pas à l'usine que je ne travaille pas. Si je suis à la maison, je peux parfaitement être en train de travailler. Et là, il faut bien revoir et écouter ce que disent les féministes. Le travail domestique, quand même, c'est du travail. Eh bien, en ce moment, nous sommes en train de travailler, peut-être confinés, peut-être en faisant pas le travail habituel que l'on fait, mais on est quand même en train de travailler. Et s'occuper de ses enfants, ou même que ce soit faire des tâches de type loisir, ou de type potager, ou de type ou de faire des travaux dans la maison, enfin, en fait, peu importe la tâche, nous sommes en train de surmonter la crise du coronavirus. Et c'est un travail dans lequel on est interdépendant. C'est-à-dire que si une personne qui habituellement travaille à l'usine en fait, en ce moment, déconne, c'est-à-dire qu'elle sort, elle va se rendre contaminante, etc., etc., et bien, en fait, elle mettrait tout le monde en péril. Donc, en fait, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être un travail que de rester chez soi et de faire des loisirs.
Mais alors, on va tomber.
Mais
du 15e étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La...
D'accord.
La 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 la.
La 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 la. La 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 la.
Et du coup, dernière question, les conseils de lecture de films et de conférences. Donc cette conférence-là, de Bernard Friot à QG. Des lectures, là je viens de finir Les Furtifs de Alain Damasio. J'avais mis beaucoup de temps à le lire. J'ai fait une pause de 6 mois. Il est un peu... Et je trouve un peu difficile, mais... Enfin, difficile, bon. C'est Alain Damasio, c'est toujours hyper intéressant. Ça demande à prendre du temps, à le relire aussi. Donc, en manière générale, tous les livres d'Alain Damasio, dans un moment où on est un peu, pour certains, enfermé, ça permet de s'évader et de réfléchir, et c'est toujours super, Alain Damasio. Et autrement, d'autres bouquins, les bouquins de Daniel Guérin. C'est quelqu'un qui a travaillé en fait sur la gauche révolutionnaire. Et tous ces bouquins, à chaque fois, je suis agréablement surpris. C'est toujours intéressant. Donc, que ce soit Fascisme et Grand Capital, Bourgeois et Bras Nus, Ni Dieu ni Maître, ou alors celui-là, j'ai commencé, Front Populaire, Révolution Manquée.
Un petit conseil, moi c'est film du coup, Le Facteur Humain de Thibault Le Texier. C'est une correspondance entre un couple, l'homme est dans l'équipe de Taylor, et ils sont en train d'inventer l'organisation scientifique du travail.
J'ai lu Bullshit Job de David Graeber récemment, qui est pas mal, et qui du coup parle notamment de tous ces boulots qui sont valorisés par le capital. Capital qui est censé faire les choses les plus efficaces possibles et pourtant qui va faire exister tout un tas de boulots qui n'ont aucune utilité réelle, voire qui sont nuisibles, comme par exemple, j'avais le souvenir d'une maison d'édition qui avait embauché une réceptionniste pour l'accueil. Alors qu'il y avait personne qui venait, mais c'est juste que par convention, en fait, une maison d'édition sans réceptionniste, ça faisait pas sérieux. Donc du coup, il y avait quelqu'un qui était employé tous ces jours à rien faire, qui s'embêtait. Et en plus, il y a un contrôle terrible sur le travail où quand tu te dis, tu t'aperçois rapidement quand même quand tu es en train de rien faire ou que tu t'emmerdes, t'essayes de faire autre chose et là il y a toujours un employeur pour te dire non par contre je vais vous donner cette tâche, vous allez trier des trombones par couleur ou j'en sais rien, enfin des trucs complètement débiles. Enfin, il y a tout un tas de témoignages là-dedans qui étaient assez probants sur des tâches vraiment débiles qui étaient affectées aux gens, enfin assignées aux gens pour les occuper parce que le temps appartient à celui qui paye ce temps dans la logique capitaliste et ça il faut en sortir. Donc voilà, Bullshit Job de David Graeber. Après, au niveau des conférences et films, je sais que là, je suis pas mal un blogueur qui s'appelle, qui fait une web-série qui s'appelle Eureka, qui fait pas mal de vidéos assez complexes sur l'économie, enfin qui essaye de vulgariser l'économie. Des vidéos sur le média aussi, enfin je suis pas mal sur des vidéos sur internet plutôt que des conférences et des films. Voilà. Si je peux aussi parler de podcasts, parce que j'écoute pas mal de podcasts et notamment des podcasts féministes. Il y a un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table de Victoire Toyon qui est excellent. Tous les épisodes sont vraiment très très intelligents et je pense que c'est un des podcasts qui m'a permis de me rapprocher de la cause féministe, où je pensais que j'en étais proche, mais en fait non, j'avais rien compris. Et j'invite tous les hommes à écouter ce podcast. C'est sur les masculinités, donc du coup sur les représentations de la masculinité. Et puis ce que ça change dans nos vies directement, quoi. Et je pense que c'est en lien aussi avec le travail invisibilisé des femmes, où même quand on a l'impression d'être sensibilisé à ces questions, il y a toujours des tâches qui sont genrées et que malgré toutes les déconstructions qu'on a pu faire, bah en fait il demeure toujours des représentations qui sont genrées, quoi. Et notamment sur le fait, je pense que le fait de prendre soin, qui est quelque chose qui est genré traditionnellement féminin, faut qu'on apprenne à prendre soin des autres, c'est important.
Ah si, et si vous avez du temps, vous pouvez aussi vous mettre au breton. C'est toujours cool de découvrir une nouvelle façon de voir les choses. Donc voilà pour les conseils. Bon courage.
Pardon, mais je pense à un truc. Ouais. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Non, mais on est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tire.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends ?